Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 1. La salpêtrière, édifiée sous le règne de Louis XIII, avait été destinée en principe à ne recevoir que les femmes atteintes de maladies incurables. À cet effet, d'immenses dortoirs, convenablement aménagés, avaient été construits de façon à ce que les malades puissent y trouver un abri confortable. Plus tard, sous Louis XV, on avait affecté une partie de l'édifice à l'internement des infortunés atteintes d'aliénation mentale. Enfin, dès la fin du règne du bien-aimé, le nombre des filles de débauche augmentant sans cesse et la répression des mauvaises mœurs devenant de plus en plus difficile, la police était littéralement sur les dents. On purgeait les mauvais lieux et des arrestations en masse s'opéraient chaque nuit. Ne sachant plus quelle prison affecter aux inculpés, on songea à employer dans ce but une notable partie de l'hôpital de la Salpêtrière. On y enferma, en attendant leur départ pour la Louisiane, les misérables créatures, prostituées et voleuses, qui se laissaient prendre dans les coups de filet de la police. Au moment où nous en sommes de ce récit, la Salpêtrière regorgeait de pensionnaires des trois catégories spécifiées plus haut. Chaque corps de logis du vaste bâtiment se trouvait complètement séparé des autres et les trois services étaient absolument distincts. La section des prostituées, il faut le reconnaître, était de beaucoup la plus peuplée grâce à la vigilance des agents, excités par les recommandations et aussi par les reproches du lieutenant général de police. On y trouvait les courtisanes de bas étage, happées le soir dans les ruelles, les filles soumises, surprises en rupture de règlement, les éitères et proxénètes qui contrevenaient sans cesse aux ordonnances de police. Mais au milieu de toute cette fange, il arrivait que quelques grandes personnalités du vice dominaient cette plèbe de débauche et obtenaient dans ce monde stigmatisé une célébrité et une sorte de souveraineté. L'arrivée à la lieutenance de police du comte de Lignières n'avait pas peu contribué à peupler la Salpêtrière. On sait les mesures de rigueur qu'avait prescrites le sévère magistrat. Les aventures galantes qui chaque nuit avaient pour théâtre les petites maisons des débauchés de marque exigeaient une prompte et exemplaire répression. Les agents étaient absolument surmenés. Les arrestations se succédaient nombreuses, mais encore et toujours insuffisantes. Le retentissement qu'avait eu la fameuse Saturnale du pavillon du Bel Air devait obliger la police à augmenter encore le nombre des prisonnières de la Salpêtrière. De quelque protection que pussent se recommander les courtisanes en renom et les filles d'opéra qui avaient assisté à cette orgie destinée à demeurer célèbre, la plupart d'entre elles avaient dû subir le sort des prostituées vulgaires. Parmi les détenus récemment entrés à la Salpêtrière, nous retrouverons en effet les principales invitées de feu le marquis de Presles. Florette, Cora, Julie, ces beautés la veille encore habillées de soie et couvertes de bijoux, aujourd'hui vêtues de l'uniforme de la prison. Elles tombaient de haut, ces filles de luxe, dont l'existence semblait vouée au plaisir sans frein. Naguère encore, les grands seigneurs se ruinaient, se battaient, se tuaient pour elles. Elles faisaient prime sur le marché de la haute galanterie. Elles ne se donnaient qu'aux plus offrants et dernières enchérisseurs, comme les bibelots de fantaisie et les pierres précieuses. Certaines d'entre elles avaient équipage, laquais, soubrettes stylées. Leurs antichambres étaient le rendez-vous des viveurs les plus titrés et des financiers en renom. La chute, dans ces conditions, devenait d'autant plus cruelle. Aussi, ces détenues n'avaient-elles pu se conformer, après plusieurs mois d'internement, au genre de vie des autres prisonnières. Florette, principalement, avait poussé des lamentations sans fin, menaçant les surveillantes de la colère de ses protecteurs qu'elle disait tout-puissants. La courtisane se révoltait contre les rigueurs qu'on lui faisait subir en commun avec ses co-détenus. Elle refusa, pendant longtemps, l'ordinaire de la prison, préférant se passer de manger plutôt que de prendre une nourriture qui répugnait à son estomac de petite maîtresse capricieuse à l'excès. Boire de l'eau alors qu'on avait dans sa cave le toquet le plus vieux, les vins d'Anjou mousseux, c'était pour la jeune courtisane un supplice de tous les jours. Et lorsqu'elle se rencontrait, aux heures de récréation avec ses compagnes d'infortune, elle ne tarissait pas de doléances, de soupirs et de larmes. L'hospice, ainsi que nous l'avons dit, avait dû être divisé en trois corps de logis, étant donné qu'il y avait trois services différents. Une cour spéciale était réservée aux filles de débauche et aux voleuses. De cette vaste cour plantée d'arbres, fermée par un mur, on pouvait voir à travers les branches des arbres dépouillés de leurs feuilles le dôme de l'église. Tout au fond, une grille séparait de cet emplacement la cour principale par laquelle on pénétrait dans la section des folles. De chaque côté, deux vastes bâtiments encadraient l'emplacement d'allées réservées aux promenades des prisonnières. D'un côté se trouvait l'infirmerie et du côté opposé les dortoirs. Nous avons dit que les voleuses étaient également détenues à la Salpêtrière en attendant le jugement qui devait ou les faire interner dans une maison de réclusion ou décider de leur transport à la Louisiane. C'est, on s'en souvient, à la Salpêtrière que Marianne, la victime de Jacques Frochard, avait été conduite lorsque, décidée à rompre avec la vie qu'elle menait et repentante du vol qu'elle avait commis, la malheureuse était allée supplier qu'on l'arrêtât. On se rappelle qu'au moment où les soldats du guet l'emmenaient, Marianne avait reconnu de loin l'aveugle qu'elle avait vu sur la place devant le bureau des messageries. Elle avait également aperçu la Frochard. L'horrible mégère donnait le bras à la jeune fille, et Marianne, sans se rendre compte de ce qui avait pu se passer après qu'elle eût quitté les deux demoiselles, n'avait compris qu'une chose, c'est que l'aveugle était au pouvoir de la mendiante. Il lui était venu alors à l'idée d'empêcher une mauvaise action, un crime peut-être, et oubliant qu'elle était prisonnière, elle avait voulu s'élancer au secours de Louise. On sait le reste. Marianne, appréhendée violemment, saisie par les soldats, avait protesté en vain, criant, pleurant, suppliant. On l'avait brutalement empoignée, et en dépit de son exaltation, les gardes l'avaient entraînée de force jusqu'à la prison. Une fois incarcérée, Marianne était tout d'abord tombée dans un état complet de prostration. Après les émotions violentes qu'elle avait éprouvées, après la lutte qu'elle avait soutenue contre les soldats qui cherchaient à la maîtriser, la pauvre femme était accablée, brisée. Les formalités de l'écrou accomplies, on l'avait transférée dans le dortoir réservé aux voleuses. Marianne s'était jetée sur un lit, cachant son visage dans ses mains. Elle pleurait à chaudes larmes, maintenant que son exaltation était tombée, que ses nerfs s'étaient détendus. Elle n'avait pas hésité à s'accuser elle-même dans un moment de terrible remords, et n'écoutant que son désespoir, elle avait tout préféré, même la honte, plutôt que de continuer à servir de complice soumise au misérable qu'il avait perdu. Mais à présent que le châtiment commençait pour elle, l'infortunée succombait à une irrésistible émotion. Elle avait horreur d'elle-même, en songeant aux bonnes paroles que les deux jeunes filles lui avaient adressées pour la dissuader de se livrer au désespoir et à la mort. Elle pleurait comme pleurent les repentis sincères. Les surveillantes, témoins de cette attitude désespérée, qu'elle voyait rarement chez les misérables créatures qu'on leur envoyait, croyait à une comédie de la douleur. L'une d'elles, plus endurcie que les autres par 20 années de service, secoua la détenue en grommelant. « Quand on dérange le monde si tard, il ne faut pas ouvrir les écluses, ma fille !» Marianne n'entendit même pas, abîmée qu'elle était dans son chagrin immense. La vieille surveillante commanda alors qu'on lui mît le costume de la prison. Cette fois, en se sentant appréhendée, la malheureuse se souleva et adressant des regards éplorés aux femmes qui l'entouraient. « Ah, laissez-moi ainsi » supplia-t-elle. « Laissez-moi mourir ici. »« Mourir ?» mâchonna la vieille servante. « C'est toujours ce qu'on dit la première fois qu'on entre en prison. Et puis, quelques jours plus tard, on est gai comme pinson. » Et elle répétait en haussant les épaules. « Mourir ? Je connais ça. Allons vite » ajouta-t-elle en s'adressant aux surveillantes. « Enfilez-lui la robe pour l'inspection. C'est bientôt l'heure. Et vous savez, Sœur Geneviève est pointilleuse en diable depuis quelques jours. » Les surveillantes s'approchèrent alors de la prisonnière et l'exhortèrent à se soumettre docilement au règlement de la prison. Elles étaient d'une douceur et d'une complaisance extrêmes, ces femmes qui se vouaient ainsi au métier de surveillante par dévotion. La plupart d'entre elles étaient des veuves, demeurées fidèles au souvenir de l'époux défunt, et qui s'étaient résignées à vivre dans la retraite et la prière. Lorsqu'elles eurent vu la vieille surveillante s'éloigner, elles parlèrent avec douceur à l'affligée. « Ne vous lamentez pas ainsi, » fit la première. « Nous aurons pour vous tous les ménagements possibles. »« Mais, » continua la seconde, « il faut que nous remplissions notre devoir. »« Et vous ne voudriez pas, » reprit l'autre, « que nous méritions un blâme. »« Que la supérieure ne manquerait pas de nous infliger. »« Elle va bientôt arriver pour la visite des dortoirs avant le coucher. »« Et elle ne comprendrait pas que vous ne vous soyez pas soumise au règlement. » Marianne regardait ces deux femmes dont la parole douce et bienveillante lui rappelait les bonnes paroles que d'autres voix, des voix d'anges, avaient murmurées à son oreille. Les autres voix lui avaient dit « Vous redoutez qu'on vous découvre, qu'on vous arrête, qu'on vous jette en prison ? Mais ne vaut-il pas mieux subir une peine de quelques mois que de mériter un châtiment éternel ?» Elle entendait encore, comme dans un écho venu du ciel, ces paroles consolantes. « Quand vous sortirez de prison, vous serez quitte envers les hommes, et quand vous vous serez repenti, vous serez quitte envers Dieu. » Ces paroles avaient été pour elle comme une révélation. Elle avait courageusement franchi une première étape dans la voie du repentir, en allant s'accuser, en suppliant qu'on la retînt prisonnière. Et maintenant, elle était dans cette maison où l'on s'acquitte envers les hommes, en subissant la peine que l'on a méritée, où l'on s'acquitte envers Dieu lorsqu'on a élevé son âme vers lui dans un repentir sincère. Il se fit alors un revirement en son esprit. Elle sécha ses larmes et s'adressant d'une voix calme aux deux surveillantes, « Je suis prête à obéir, » prononça-t-elle. « Que faut-il faire? Dites ce que vous exigez de moi. » « Vous allez revêtir ce costume, » fit la plus jeune. « C'est la règle. » « Plus tard, » poursuivit l'autre, « vous retrouverez celui que vous allez quitter, lorsque vous serez rendu à la liberté. »« À la liberté, » soupira Marianne en levant ses yeux au ciel. Et rencontrant les regards des deux surveillantes fixés sur elle, la pauvre femme courba le front. Il lui semblait que son crime se lisait sur son visage. Elle éprouva un sentiment de honte, et le rouge lui monta aux joues. Puis, allant d'elle-même au-devant de ces regards qui la brûlaient, elle murmura dans sa pensée. « C'est le châtiment qui commence. C'est la première minute du long repentir que je veux m'imposer. » Et cet instant d'humilité écoulé, Marianne se laissa vêtir. Lorsqu'on l'eut de nouveau laissée seule, elle pensa que la supérieure allait arriver, qu'elle lui adresserait peut-être la parole, qu'elle l'interrogerait sur le motif de sa détention. S'il en était ainsi, elle n'hésiterait pas. Elle s'humilierait et avouerait son crime, afin de s'infliger elle-même un châtiment nouveau. Elle avouerait tout, sa faiblesse, son amour pour l'homme ignoble qui avait abusé de la passion qui l'aveuglait, sa chute au bout de laquelle elle avait trouvé l'infamie et la honte dans laquelle elle s'était vautrée. Mais après s'être confessée ainsi, elle dirait son désespoir et son repentir. Elle dirait que désormais, elle ne vivrait que pour mériter plus tard le pardon de toutes les fautes dont elle s'était rendue coupable. Tout à coup, les cloches de l'église sonnèrent l'Angélus. Toutes les prisonnières, sur un signe de la vieille surveillante, se mirent à genoux, et un long murmure de voix arriva jusqu'à Marianne. Lentement, elle fléchit les genoux à son tour. C'était la première fois que depuis son enfance elle priait. Le son de ces cloches plongeait son âme dans une extase inconnue. Et dans son esprit se formulaient des prières qu'elle improvisait, qui lui venaient toutes faites, avec des mots et des phrases qu'elle avait entendues, autrefois, au catéchisme et à la messe, du temps qu'elle y allait. Des phrases qu'elle avait oubliées depuis longtemps, hélas. Marianne se laissait aller aux sensations si douces qu'elle éprouvait, lorsque le bruit que firent les détenus en se relevant attira son attention. Elle vit alors paraître à la porte qui s'ouvrait à l'extrémité du dortoir un groupe formé par des sœurs de charité et que suivaient des surveillantes. Une sœur, plus âgée, marchait en tête, s'arrêtant devant chaque détenu pour lui adresser une parole que la prisonnière écoutait, le front incliné. « C'est la supérieure, » pensa Marianne, et elle sentit que ses yeux étaient attirés irrésistiblement vers la sainte femme devant qui tout le monde se courbait. Son cœur s'élançait vers cette pieuse créature, objet du respect de toutes ces religieuses qui lui faisaient escorte. Et lorsque la supérieure s'arrêta enfin devant elle, Marianne se fit violence pour ne pas se prosterner à ses pieds. Sœur Geneviève vit-elle l'émotion qui étreignait la détenue? Comprit-elle ce qui se passait dans le cœur de cette infortunée? Toujours est-il qu'elle dit à Marianne, d'une voix calme et empreinte d'une douce compassion, « Pourquoi tremblez-vous, mon enfant? Celles qui entrent ici n'ont-elles pas droit à notre pitié? » Et plus bas, « Remettez-vous, ma fille. » Et comme elle tendait la main vers la prisonnière avec l'intention de lui donner confiance, Marianne fit un mouvement pour se précipiter sur cette main et y coller ses lèvres. Mais la supérieure avait passé, laissant la pauvre affligée sous l'impression qu'elle venait de ressentir. Bientôt, le bruit des pas des religieuses se perdit dans la profondeur de cette longue salle. La visite des dortoirs était terminée. Sœur Geneviève se rendait maintenant à l'église de la prison pour y assister au service du soir. Cette nuit-là, Marianne ne dormit pas. La fièvre l'avait tenue haletante sous le coup de violentes hallucinations. Elle appelait en vain le sommeil comme un soulagement à de tristes souvenirs qui exaspéraient sa pensée. L'insomnie persistait, alimentée par la fièvre qui étreignait sa tête et faisait battre précipitamment ses tempes. Puis, après les rares instants de lucidité qui lui arrivaient, la patiente retombait plus avant dans les hallucinations. Son imagination enfantait les drames les plus noirs, les situations les plus terribles. Et dans les scènes qui se déroulaient ainsi devant elle, apparaissaient comme personnages principaux les deux jeunes filles rencontrées sur le Pont-Neuf. C'était la Frochard qui emmenait Louise. Elle l'entraînait dans son taudis. Qu'allait-elle faire de cette pauvre enfant atteinte de cécité? Marianne, épuisée par ce spectacle, voulait crier. La voix ne sortait pas de sa gorge. Elle voulait crier à l'aveugle. « Ah, fuyez, fuyez! Cette femme sera pour vous un bourreau sans pitié. Fuyez !» Elle voulait s'élancer pour courir au secours de Louise, mais ses pieds étaient rivés au sol. Elle faisait des efforts impuissants pour se dégager. Ses os craquaient, ses jambes fléchissaient sous elle. Elle levait la tête dans une lutte désespérée, mais ce n'était que pour voir la Frochard entraînant Louise après elle. Et les deux silhouettes disparaissaient dans le brouillard. Marianne demeurait comme morte à l'endroit où elle était tombée. Puis elle se voyait elle-même au moment où elle avait commis le vol odieux dont elle s'était rendue coupable. Elle se voyait s'emparant de l'argent destiné au pauvre petit orphelin que de braves ouvrières, ses compagnes, à elle, avaient adopté comme leur enfant. Et le remords s'élevait dans son âme, dévorant, implacable. Des sons inarticulés s'échappaient de sa gorge. Elle s'agitait violemment, si violemment, qu'elle tomba de son lit et roula sur la dalle du dortoir. La surveillante de service était accourue aussitôt. Aidée par deux des détenus, elle avait réussi à remettre Marianne sur sa couche. « Pauvre fille, » fit-elle, « elle bat la campagne, c'est la fièvre. Il faudrait peut-être prévenir la supérieure, » hasarda une des prisonnières. « Bah !» ricana l'autre, « c'est de la frime pour se faire bien venir. » Et comme pour donner raison à cette sceptique endurcie, Marianne demeura immobile. Sa respiration se fit moins saccadée. Il se produisait dans son état une légère accalmie qui toutefois ne devait pas être de longue durée. L'agitation reparut presque aussitôt. Alors la surveillante prit le parti de venir s'installer au chevet de la malade. Pour cela, elle traîna tout contre la couchette de Marianne le fauteuil en chêne dans lequel elle devait passer la nuit. Et lorsque les deux détenus se furent recouchés, la religieuse se mit à prier pour la malheureuse qui souffrait sous ses yeux. Elle pria longtemps, jusqu'à ce que le petit jour eût blanchi de sa vague clarté les rideaux blancs des couchettes. Alors, doucement, elle approcha son visage de celui de la détenue. Marianne avait les yeux ouverts et regardait la religieuse d'un air effaré. « Vous avez eu la fièvre, » lui dit doucement la sœur avec une expression attristée, et ajouta avec intérêt. « Où souffrez-vous ? » La détenue leva les yeux sur celle qui lui parlait ainsi. Mais au lieu de répondre, elle poussa un long soupir et porta vivement la main à ses yeux, comme si elle eût été encore sous le coup d'une terrible hallucination. Puis, insensiblement, ce dernier mouvement d'agitation cessa. Marianne remercia d'une voix dolente la bonne sœur qui s'intéressait à elle. « Vous avez veillé là, près de moi ? » demanda-t-elle avec attendrissement. Oh, que vous êtes charitable, et combien je vous remercie !» Des larmes lui venaient aux yeux. Elle cacha son visage dans ses mains, mais l'heure du lever avait sonné. Trois coups de cloche annonçaient aux détenus qu'elles eussent à faire leur lit. Marianne s'était levée comme ses compagnes de dortoir. Elle se soutenait à peine, et c'est en chancelant qu'elle put arriver à s'acquitter de la tâche imposée aux prisonnières. On chuchotait autour d'elle, mais elle ne s'occupait guère de ce qu'on pouvait penser et dire sur son compte. Tout entière à ses tristes souvenirs, la résignée sentait commencer pour elle la rude épreuve qu'elle allait subir. Et malgré ses premières heures si pénibles, elle ne regretta pas un seul instant d'avoir été d'elle-même au-devant du châtiment qu'elle savait avoir mérité. La formalité du lever des détenus s'était accomplie, comme d'habitude, avec la plus grande célérité. Placée sur deux rangs, précédées et suivies par des surveillantes et des religieuses, les prisonnières traversèrent la cour principale pour se rendre à l'église. Lorsque Marianne entra dans l'édifice sacré, il lui sembla qu'elle était subitement régénérée. Ses regards s'étaient portés vers l'autel où le prêtre s'apprêtait à dire la messe basse. Elle vit une religieuse prosternée, les mains jointes, et qui lui parut plongée profondément dans des méditations religieuses. C'était la supérieure qui avait précédé les détenus dans l'église. Lorsqu'elle n'entendit plus le bruit des chaises, sœur Geneviève leva la tête et son visage, qui portait l'empreinte de la sérénité de l'âme, fit une impression vive sur Marianne. Il lui sembla même que la supérieure l'avait remarquée et lui avait adressé un regard plein de bonté maternelle. Son cœur tressaillit de joie, comme si ce regard d'une sainte l'eût purifié à ses propres yeux. Et de fait, Marianne ne s'était pas trompée. La supérieure, prévenue par la surveillante de nuit de l'état de santé de la nouvelle détenue, avait en effet remarqué l'extrême pâleur qui couvrait les traits de la prisonnière. Et son inaltérable bonté s'était manifestée dans le regard qu'elle avait adressé à Marianne. Après l'office, pendant que les prisonnières déjeunaient d'un morceau de pain disséminé dans la cour, marchant à grands pas pour ne pas se laisser saisir par le froid, sœur Geneviève fit mander auprès d'elle la nouvelle détenue. « Marianne, dit-elle à la malheureuse qui faisait de visibles efforts pour se soutenir, le docteur ne va pas tarder à arriver. C'est lui qui décidera si votre état exige que vous entriez à l'infirmerie. Mais moi, j'ai le pouvoir de vous accorder quelques adoucissements aux rigueurs du règlement. C'est de cette façon que je récompense les détenus qui ont témoigné d'un bon repentir et de sentiments meilleurs. J'espère, mon enfant, que Dieu vous enverra de saines pensées et que vous saurez racheter la faute. Oh, dites-le, crime, madame, s'exclama Marianne en joignant les mains. Oui, j'ai commis un crime, le crime le plus odieux. Puis se souvenant, je ne crains pas de le crier bien haut, assez haut pour que tout le monde l'entende. N'est-ce pas en m'humiliant que je parviendrai à racheter cette coupable action ? Elle s'animait, comme si elle eût éprouvé le besoin de cette confession. Sœur Geneviève voulut, par un sentiment de pitié, l'empêcher de continuer. « C'est à Dieu d'abord, mon enfant, dit-elle, que vous devez vous confesser. Ensuite, vous ferez les aveux sincères qui, je le sens, sont tout près de sortir de votre bouche, au juge, appelé à apprécier votre degré de culpabilité. Quant à moi, ajouta-t-elle avec douceur, je ne puis que prier pour que le châtiment soit moins cruel. » Et surtout, pour que le pardon vous vienne de là-haut, ajouta-t-elle en levant les yeux au ciel. Marianne ne pouvait contenir son émotion. Son sein se soulevait sous l'effort des sanglots qu'elle refoulait à grand-peine. Les paroles si bienveillantes qu'on lui adressait, à elle, la fille perdue, la voleuse, lui allaient à l'âme pour aggraver encore le châtiment qui commençait pour elle. Elle se disait que toute cette bienveillance s'évanouirait lorsqu'on connaîtrait tout l'odieux de son crime. Et cependant, elle ne recula pas devant la confession entamée. « Oh, madame, s'écria-t-elle, ne refusez pas de m'entendre, ne me refusez pas de vous dire tout ce que j'ai souffert depuis l'instant où la vérité m'est apparue, depuis le jour où deux jeunes filles, deux anges m'ont ouvert les yeux. Si dans mon enfance j'avais eu une mère pour m'enseigner la morale et me faire prier, je ne serais pas aujourd'hui la coupable que je suis. Je ne gémirai pas comme je le fais sur une faute que je n'eusse pas commise. » Sœur Geneviève avait écouté sans interrompre. Son émotion perçait dans ses regards. Se souvenant d'une phrase qu'avait prononcée la détenue, elle voulut en avoir l'explication. « Quels sont ces deux jeunes anges dont vous parliez et qui ont su émouvoir votre âme et y faire naître le repentir ? Deux jeunes filles que vous connaissiez, que je voyais pour la première fois, deux sœurs, je suppose. « Comment vous ignorez ? Je ne les ai pas revues. » « Et cela se passait hier soir, madame, » prononça la malheureuse d'une voix tremblante, « une heure à peine avant que l'on me conduisît ici. » Les pressées de questions, Marianne raconta à la supérieure dans quelles circonstances elle avait fait la rencontre des deux jeunes orphelines. Elle n'oublia aucun détail et rapporta exactement comme elle les avait conservées dans sa mémoire les paroles si élevées que lui avait adressées Henriette, les exhortations si émues, si pressantes que lui avait faites la jeune aveugle. Lorsque la détenue fut arrivée au bout de ce récit, la supérieure lui dit avec une évangélique simplicité. Sachez vous souvenir des saintes vérités que vous ont enseignées ces jeunes filles, que certainement la Providence vous a fait rencontrer. Sachez que c'est dans le travail que vous trouverez la consolation, que c'est dans la prière que vous puiserez la force de persévérer dans votre repentir. Et lorsque vous vous adresserez à Dieu, n'oubliez pas, en l'implorant pour vous, de prier aussi pour celles qui, les premières, vous ont parlé de lui, de sa miséricorde. Souvenez-vous aussi, continua la religieuse, plus émotionnée qu'elle ne voulait le paraître, souvenez-vous que le mensonge doit être banni, comme le germe de toutes les fautes, de tous les crimes, qu'il faut avoir le courage de dire franchement ce qui est, et qu'il ne saurait avoir, pour dissimuler la vérité, aucune capitulation avec sa conscience. La supérieure avait, depuis quelques instants, supposé qu'une amélioration sensible avait dû se produire dans l'état de la détenue, car celle-ci paraissait comme réconfortée par les paroles qu'elle venait de lui adresser. Marianne, en effet, éprouvait un grand apaisement depuis qu'elle avait soulagé son cœur du poids qui l'oppressait. Aussi, sœur Geneviève, lui dit-elle en souriant, « Nous n'avons plus besoin d'attendre avec autant d'impatience l'arrivée de notre excellent médecin. Je vous recommande de prendre, comme vos compagnes d'infortune, les récréations que le règlement vous accorde, parce que c'est pour vous, recluse, une condition de santé. Au surplus, ajouta la sainte femme, je veillerai à ce que vous ne vous abandonniez pas trop à la tristesse, au découragement surtout. » La promesse que la supérieure faisait à Marianne de veiller sur elle ne devait pas être vaine. À partir du jour de son incarcération, la jeune femme, qui avait su, dès le premier moment, s'attirer la bienveillance de la religieuse, fut de la part de sœur Geneviève l'objet d'une sollicitude presque maternelle. En outre, la sainte femme avait recommandé sa protégée à celui qu'elle appelait son excellent docteur et qu'elle avait depuis longtemps associé à ses bonnes œuvres, à son inépuisable charité. Dans la vie toute de dévouement et d'abnégation qu'elle s'était faite, la religieuse avait considéré comme un bienfait de la Providence d'avoir rencontré ce digne savant qui consacrait de préférence, ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le dire, sa science aux malades pauvres et qui faisait de sa fortune une large part aux infortunes à soulager. C'est lui que nous avons vu s'intéressant si vivement à cette malheureuse petite aveugle que la Frochard traînait à sa suite. Ce médecin, attaché au service de la Salpêtrière, était le praticien célèbre auquel la haute noblesse avait accordé une confiance absolue. M. de Lignières l'avait appelé auprès de la comtesse pour essayer d'avoir raison de sa persistante et profonde mélancolie. Le comte avait dû, après une longue expérience, reconnaître que la science du docteur était impuissante à combattre victorieusement cet étrange mal qui, chaque jour, faisait du progrès et menaçait d'emporter la malade. Mais ce qu'ignorait M. de Lignières, c'est que le célèbre praticien avait su bientôt découvrir que la maladie de la comtesse n'était pas de celle que la science peut guérir. La supérieure, bien qu'elle ne supposât pas que le docteur pût améliorer l'état de santé de Marianne, l'attendait néanmoins pour lui parler de sa protégée. Aussi, lorsqu'elle le vit paraître à la grille de la cour principale, alla-t-elle au-devant de lui avec plus d'empressement encore que d'habitude.